On voit pas les oiseaux tomber des arbres, on voit pas des tas d'oiseaux au bout de la rue le matin en allant travailler.
En moyenne, sur l'ensemble de nos points d'écoute, on a perdu un peu plus du tiers des individus dénombrés.
Et en plus, il y a un autre phénomène qui se rajoute à ça, c'est le fait qu'on est dans nos sociétés contemporaines de plus en plus déconnectés de la nature.
Bonjour à tous. Il se passe en France depuis au moins ces 15 dernières années une catastrophe écologique qui est longtemps restée invisible. Dans nos campagnes, un tiers des populations d'oiseaux ont disparu. L'alouette des champs, la fauvette, le bruant, la linotte mélodieuse, la tourterelle des bois, la perdrix grise sont aujourd'hui menacées et ce déclin massif touche toutes les espèces d'oiseaux. En cause, plusieurs facteurs. La généralisation de l'utilisation des pesticides, notre modèle agricole qui privilégie les grandes surfaces et perturbe l'écosystème, mais aussi la fin des jachères imposées par l'Europe il y a une dizaine d'années. Dans le même temps, on note une disparition progressive des insectes, cette fois, qui vient aggraver le phénomène et impacte toute la biodiversité. C'est le CNRS et le Muséum d'Histoire Naturelle qui ont révélé il y a quelques semaines ces nouvelles données très alarmantes. Une étude notamment réalisée au centre biologique de Chizé, dans les Deux-Sèvres, un véritable laboratoire à ciel ouvert de 45 000 hectares de terres agricoles. C'est dans ce département que nous vous emmenons ce matin. Scientifiques, agriculteurs, politiques ou simples citoyens y dressent un constat inquiétant, mais vous l'entendrez, tente aussi d'apporter des solutions. Aurons-nous un jour un printemps silencieux ? Reportage signé Sandy Dauphin.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Donc là, c'est le point d'écoute qui démarre. Donc la durée, ces points sont extrêmement standardisés. C'est 10 minutes. C'est toujours le même endroit. Donc j'ai des petites feuilles qui permettent de se repérer. Donc dans un rayon de 200 mètres, on va noter tous les oiseaux entendus. Et on note chaque alouette, chaque pinson, chaque merle. On les individualise. Chacun est noté, positionné précisément sur la carte. On note leur comportement, s'ils chantent, s'ils crient, s'ils sont posés, s'ils se nourrissent. Et puis, au bout de 2 minutes, on redémarre le point et on renote l'ensemble des individus. Et ça, on le fait 5 fois de suite. Donc, ça donne 5 tranches de 2 minutes, ce qui fait un point de 10 minutes. Et on refait ce même dénombrement à peu près un mois plus tard. Et on fait ça tous les ans.
D'accord. Donc là, on...
Donc là, on commence à écouter. Et je... Alors, on est sur un endroit qui est pratiquement un désert ornithologique, hein. Il n'y a pratiquement plus rien ici. On entend un bruant qui est à ma droite, qui est au bout de la haie. Donc on retrouve sur la carte. Bruant proyer, c'est une des espèces classiques en plaine céréalière. Et puis au loin, on a une alouette, mais elle est en dehors du point d'écoute puisqu'elle est au-delà de 200 mètres. Donc elle ne sera pas notée.
On va écouter.
Et puis pour l'instant, c'est tout.
Vincent Bretagnol est chercheur au Centre d'études biologiques de Chizé. C'est le co-auteur de l'étude sur l'effondrement des populations d'oiseaux.
En moyenne, sur l'ensemble de nos points d'écoute, on a perdu un peu plus du tiers des individus dénombrés, ce qui est considérable. Toute espèce cumulée, on a perdu un peu plus du tiers. Par exemple, l'alouette des champs a perdu un tiers de ses effectifs. Donc l'alouette des champs, c'est le petit passereau qu'on a partout dans les champs. Il y a 2 espèces de perdrix, elles ont perdu pour l'une 80% des effectifs, l'autre 90%. Donc c'est colossal, hein. Et puis on a quelques espèces qui soit se maintiennent, soit sont même en légère augmentation. On a eu des colonisations de nouvelles espèces dans les années 95-2000. On a eu aussi de l'extinction d'un certain nombre d'espèces. Mais le signal vraiment fort... C'est un déclin généralisé et très sensible, hein, parce qu'un tiers des effectifs en l'espace de 20 ans, c'est considérable. Et c'est tout à fait conforme à ce qui a été trouvé dans l'ensemble des pays d'Europe. L'Angleterre, qui est le pays sur lequel il y a les suivis à plus long terme, eux, ils ont perdu 60% des effectifs d'oiseaux des milieux agricoles en 50 ans. Nous, on est à 30% en 25 ans, eux, ils sont à 60% en 50 ans, c'est exactement la même... cinétique.
Pourquoi il y en a moins ?
Il y a 2 causes principales, en fait, qui sont toutes les deux liées à l'intensification de l'agriculture. La première cause, c'est ce qu'on pourrait qualifier de perte d'habitat. C'est lié, en fait, à l'uniformisation des habitats dans les plaines agricoles via la disparition des haies, des petits bosquets, des murets, des mares, des prairies. Et puis la deuxième grande cause, c'est l'utilisation des pesticides, parce qu'il faut les appeler comme ça. Donc les pesticides... Évidemment, on pense en premier lieu aux insecticides, dont l'objectif est quand même de tuer les insectes. Donc, j'allais dire assez mécaniquement, moins d'insectes, moins d'oiseaux.
Quand vous dites un tiers en moins de la population des oiseaux, on s'attend presque, ou les gens peuvent s'attendre à ce que les oiseaux tombent dans les champs. C'est une mortalité qui est différente, en fait.
Absolument, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous ne trouverez pas d'oiseaux morts, ils ne meurent pas instantanément de faim. C'est pas ça du tout qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que la reproduction est affectée. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de l'alouette des champs, pour qu'une population soit stable, il faut que chaque couple élève en moyenne un certain nombre de poussins pour remplacer la mortalité des parents par des poussins qui deviennent adultes et qui se reproduisent. Donc c'est une balance entre la mortalité et la reproduction. Et si les oiseaux se reproduisent moins parce qu'il y a moins d'insectes, en fait, quand il y a moins d'insectes, ils élèvent moins de poussins, et donc la balance devient négative. La mortalité des adultes, qui est une mortalité naturelle, excède le recrutement des poussins qui vont rentrer dans la population productive. Et c'est ça le mécanisme qui fait que les populations déclinent lentement. Là, on entend un pinson qui est en train de faire un cri d'alarme parce qu'il a probablement un nid pas trop loin.
C'est nous qui le dérangeons ?
Oui, certainement. Donc les points d'écoute sont d'une durée de 10 minutes normalement, donc on s'en va rapidement et on ne dérange pas la reproduction des oiseaux.
Vous disiez tout à l'heure, il y a un tiers des populations d'oiseaux qui ont disparu. Quelles conséquences ça a ? Finalement, il y a des gens qui disent, ben regardez, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner.
Oui, c'est une vision peut-être un petit peu courte parce que l'agriculture dépend de la nature. S'il n'y a pas de vers de terre et de micro-organismes dans les sols, il n'y a pas de matière organique, donc il n'y a pas de production. S'il n'y a pas d'insectes qui contribuent eux aussi à ce recyclage de la matière organique, il n'y a pas de production non plus. Les agriculteurs ont besoin des insectes qui consomment les insectes parce que sinon ça devient des ravageurs de culture.
Donc déjà vous êtes en train de nous dire la disparition des oiseaux c'est un curseur pour
absolument.
La biodiversité.
Mais c'est même un curseur pour les agriculteurs parce que ces oiseaux qui consomment des insectes en été, donc participent à la régulation de ces populations d'insectes qui peuvent être des problèmes pour l'agriculture. Et en plus de ça, l'alouette par exemple consomme des graines de cette flore spontanée en hiver et donc contribue très fortement à la régulation de ces plantes qui peuvent entrer en compétition avec les cultures. Donc la disparition des oiseaux, même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, c'est mauvais signe pour l'agriculture elle-même, déjà. Et deuxièmement, c'est effectivement un curseur qui nous indique, parce que ce sont des oiseaux qui sont prédateurs, donc qui sont en bout de chaîne alimentaire, ce qu'on appelle des prédateurs supérieurs, nous indique que l'ensemble de l'écosystème est en dysfonctionnement. Et donc c'est une mauvaise nouvelle pour la santé des écosystèmes en général. Et enfin, c'est une mauvaise nouvelle parce que les oiseaux participent aussi au patrimoine culturel, à travers le patrimoine naturel des citoyens. On aime bien, quand on va se promener, entendre des chants d'oiseaux. On imagine mal ce que serait vraiment un printemps totalement silencieux. Ce n'est pas dans notre état d'esprit, en tout cas il me semble. Et donc voilà, donc pour toutes ces raisons, la disparition des oiseaux doit inquiéter la société dans son ensemble.
Sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, ça va ?
Oui, ça va très bien.
Bonjour.
Bonjour, Sandy.
Merci de vous rendre disponible.
Oui, oui merci. Non, on va essayer de ne pas vous garder
non,
trop longtemps.
Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème.
Donc là, on est chez vous ?
On est chez nous, oui, tout
et
à fait, la parcelle.
Qu'est-ce que vous exploitez ici, alors ?
Alors, dans cette parcelle-là, il y a du blé avec des petits pois.
Donc vous participez à un programme pour sauvegarder une espèce d'oiseau local.
La outarde. En l'occurrence.
Et comment vous y participez alors ? Comment
on met en place des cultures luzernes. C'est des luzernes qu'on met en place. C'est des contrats de 5 ans. Et donc, on n'y touche pas entre le 15 mai et le 31 août, si je ne me trompe pas. Hein. C'est-à-dire, on ne fauche pas, on ne fait pas d'intervention dedans, justement pour que les outardes se repeuplent.
Parce qu'elles ont besoin d'herbes hautes, c'est ça ?
Oui, et dans les luzernes, c'est apparemment là où c'est leur milieu où elles sont bien.
C'est leur coin préféré.
C'est leur coin préféré, voilà. Donc on a mis ça en place avec le CNRS, c'est une mesure environnementale. Après, on est rémunéré en fonction de ça. Aussi, comme on laisse la parcelle disponible, on a une aide de l'État, hein, à l'hectare, pour compenser, voilà, comme on n'y touche pas entre le mois de mai et le mois d'août. Voilà.
D'accord. Et ça, vous faites ça depuis combien de temps ?
Moi, ça fait bien une dizaine d'années que je fais ça, oui.
Et je peux vous demander pourquoi ?
Parce que ça m'intéressait, je savais que la outarde était menacée, puis moi j'avais des parcelles où ça convenait, et voilà. Du moment qu'on est dédommagé partiellement, maintenant il n'y a pas de souci. Et en plus, moi dans ma rotation, comme on est en agriculture biologique, les luzernes c'est important. Hein, c'est une légumineuse, donc ils restituent de l'azote après pour les cultures de céréales. Donc moi ça m'intéressait de les laisser 5 ans, ou si vous voulez, la parcelle se repose pendant 5 ans aussi. Voilà. Celle qu'on met en outarde.
Est-ce qu'on voit des signes qu'il y en a ?
Non, là, on entend une caille des blés, donc c'est une espèce qui a beaucoup diminué aussi, qu'on n'entend pas à l'instant, là, qui est dans cette luzerne. Là, je n'ai pas vu d'outarde à l'instant, mais après, je vous avouerai quand même qu'en venant à pied à 5 au bord de la route, c'est pas le meilleur moyen de repérer des outardes.
Hein.
C'est quand même des espèces farouches.
Alors dites-nous à quoi ça ressemble quand même. Parce que
alors, l'outarde canepetière, c'est aujourd'hui, le plus grand oiseau de plaine en France, ça fait à peu près, les mâles font 1 kg, 1,2 kg, donc c'est quand même un assez gros oiseau, ça fait 60-70 cm de haut, très coloré, avec des parades très spectaculaires, c'est des oiseaux qui font beaucoup de bruit, qui chantent souvent, qui font des parades où ils volent en même temps, ils ont les ailes blanches, donc c'est vraiment très spectaculaire. Mais c'est une espèce, comme c'est la plus grande, qui est aussi la plus exigeante, un poussin d'outarde. Il faut qu'il consomme par jour 200 criquets, un poussin. Une femelle d'outarde qui élève sa famille, normalement elles ont 4 poussins, il faut donc qu'elle trouve 800 criquets par jour. Bah, je vous mets au défi de vous promener dans des champs aujourd'hui et de trouver 800 criquets dans la journée. Ça n'existe quasiment plus. Donc on met ces mesures agri-environnementales, notamment dans les luzernes, parce que c'est aussi des cultures qui sont très bien pour les criquets. Donc elles ont à la fois le gîte et le couvert dans ce type de parcelles.
Est-ce qu'on peut mesurer la chute des populations ?
On a des dénombrements d'outardes en France et notamment au Poitou-Charentes depuis les années 70. Et on est en gros passé de 6 000 à 7 000 mâles en 1980 à actuellement 250. On a perdu 95% des outardes dans l'espace de 35 ans.
Et c'est une espèce emblématique ici ?
C'est une espèce emblématique qui fait partie du patrimoine. Vous pouvez discuter avec des agriculteurs... des retraités, des vieux, tout le monde connaissait les outardes. Il y avait des vols de plusieurs milliers d'outardes ici, là, dans les années 60-70, ça a totalement disparu. L'outarde canepetière, elle a disparu. La population était continue de la Dordogne à l'Alsace. Il y en avait beaucoup en région parisienne, en Beauce, il y avait beaucoup d'outardes. Elles ont totalement disparu. Il n'existe plus d'outardes de toute cette population qu'en Poitou-Charentes aujourd'hui.
Pourquoi vous êtes passé en bio ?
Mais parce qu'à l'époque, on avait 70 hectares sur l'exploitation, on est tous les deux. Hein. On avait quelques chèvres à côté. Et donc, il fallait trouver de la plus-value. Voilà. Et voilà, je me suis renseigné par rapport au bio et j'ai dit, hop, on y va, banco.
Est-ce que c'était des parcelles qui appartenaient à vos parents ?
Non, mes parents n'étaient pas agriculteurs.
D'accord, ok. Donc, parce que j'allais vous poser la question, est-ce qu'ils vous ont dit, mais t'es fou ?
Par contre, mon grand-père était agriculteur. Quand je lui ai dit que je passais en bio, il m'a dit, mon pauvre garçon, t'es foutu, hein. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, il est encore là. Mon grand-père, il a 93 ans. Et il me dit, chapeau. Voilà. Parce que lui, dans sa tête, si on ne traitait pas, si on ne mettait pas d'engrais, c'était tout perdu. On semerait et on récolterait à peine ce qu'on a semé. Et non, il est très très fier de nous. Hein, je peux dire ça comme ça.
Qu'est-ce qu'on pulvérise en ce moment dans les autres champs ? C'est des fongicides ?
Ouais, je pense qu'ils font du... Enfin oui, c'est même sûr, ils font des fongicides, ouais. Sur les blés, tout ce qui est céréales, ouais. Ouais, pour les maladies.
Eux n'ont pas le choix, si ?
Non, ils n'ont pas le choix. Mais ils sont dans un système où ils continuent tout le temps, quoi. Voilà. Bon, je veux pas leur jeter la pierre, hein. Voilà, je veux pas qu'on monte le bio contre les conventionnels, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, ils sont dans un système où ils apportent de l'engrais, ils traitent désherbage, fongicides, jusqu'à la fin. Et après, à la fin, en ce moment, je suis pas persuadé qu'il leur reste grand chose, malheureusement. La marge brute à l'hectare doit pas être. Mais bon, voilà.
À cause du coût des phytos ?
Le coût des phytos, le blé a quand même drôlement diminué, hein, le prix de la tonne en conventionnel, donc à mon avis c'est chaud pour eux. Hein.
Moi c'est François Pétorin, gérant de l'ERL du Grand Cercou. L'exploitant céréalier sur 210 hectares, donc un site ici de 130 hectares et 80 hectares sous la ville de Niort, la ferme historique de mes parents.
C'est les appareils qui redémarrent. Voilà. Donc là, pour le pulvérisateur, on a deux écrans. Un écran qui contrôle l'appareil en lui-même et un écran qui contrôle la barre de guidage et la coupure. Donc ici, je programme mon litrage hectare que j'ai besoin de mettre. Après, je lui programme aussi le volume que je veux rentrer dans le pulvérisateur, le volume d'eau par rapport à ma surface. Et une fois que j'ai mis ma prise de force en route qui anime la pompe, c'est lui qui gère le remplissage et qui se coupe tout seul. Après, une fois que je vais au champ, je pulvérise, je fais mon premier tour de champ, je lui enregistre son tour de champ et là je passe en mode automatique. Et donc à partir de ce moment-là, mon joystick ne sert plus et c'est le pulvé qui coupe en bord de champ ou dans les pointes pour mettre la bonne dose au bon endroit et au bon moment.
Les phytos, vous les utilisez de quelle manière pour le blé, là le blé dur par exemple?
Alors pour le blé dur, j'utilise le blé dur de ma récolte que je fais trier et traiter pour les maladies du semis à la levée.
Ça veut dire que ce sont des...
C'est un enrobage, un produit qui enrobe la graine pour protéger la graine en elle-même de certaines maladies du sol ou de la germination.
On appelle des semences enrobées, et oui. C'est quand vous faites les semis, c'est la graine qui est plantée dans le sol,
voilà.
Qui est entourée de certains produits phytosanitaires qui empêchent les maladies en début.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, à partir d'un certain stade, ces produits-là, leur diffusion n'est plus active. Et donc après, on est obligé d'intervenir sur la plante en elle-même, en fonction des risques climataux et de la plante.
Et c'est ce que vous faites en ce moment?
Voilà, c'est ça.
C'est ce qu'on voit dans les champs en ce moment, les grands tracteurs avec les ailes déployées.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a une méconnaissance et on est en pleine mutation. Hein. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais on est en pleine mutation. Ça va très, très vite. Donc nous, on suit le mouvement, hein, loin s'en faut. Et c'est pas parce que forcément aujourd'hui, on voit plein de pulvées, mais parce qu'il fait beau tous le même jour, qu'on en met plein partout. C'est pas vrai. On fait attention à ce qu'on fait. On a réduit les doses de moitié. Alors après j'entends, il y en a qui voudraient qu'on mette rien. Nous aujourd'hui on n'est pas de nombre. On essaye de trouver des solutions alternatives, hein. On essaye des choses, des cultures différentes, mais à un moment donné on se sert de ces produits-là, mais à la juste dose, avec des appareils qui sont perfectionnés, évolués. Nous aussi on a l'informatique, de l'électronique, qui nous sert justement à mieux maîtriser toutes ces choses.
En revanche, là où vous dites c'est compliqué économiquement pour nous, c'est les semences enrobées qui sont un traitement systématique, c'est-à-dire qui est maladie ou pas, on fait du préventif. Mmh. Ça, économiquement, c'est difficile d'y renoncer pour vous.
Aujourd'hui, oui. Après, je vous dis, on va certainement faire des essais entre nous, enfin, au sein des organismes aussi. Hein. Après, il y a des organismes comme Arvalis, du Manure... Institut technique là, qui n'est pas très loin, qui suit toutes les céréales. Et l'INRA aussi, l'Institut de recherche agronomique, ils font des études aussi sur toutes ces méthodes alternatives. Donc s'ils nous aident là-dessus ou qu'ils nous trouvent des choses, on va les essayer, loin s'en faut. Au contraire, on sera les premiers testeurs de ces méthodes.
Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir, madame.
Enchanté.
Je vais vous présenter. Vous êtes le président régional du syndicat FNSEA.
Oui.
Et la particularité locale, c'est que vos parcelles sont situées dans le domaine d'études du centre CNRS de Chizé.
Une bonne partie, oui.
C'est-à-dire, quel type d'études est-ce qu'on a réalisé, par exemple, chez vous?
Alors, chez nous, on a réalisé un certain nombre d'études par rapport aux adventices.
C'est-à-dire les
mauvaises herbes qui poussent, les herbes qui poussent dans nos cultures et qui sont indésirables, on va dire. On a régulièrement des travaux avec le CNRS. On participe encore cette année sur le travail de la fertilisation, sur un certain nombre d'autres sujets.
La dernière étude qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est l'étude sur les oiseaux, qui montre qu'un tiers des populations d'oiseaux dans la plaine céréalière de Chizé a diminué. Comment vous accueillez cette étude ?
Bah, écoutez, y a plein d'éléments. Faut aussi s'interroger sur, alors certainement sur les pratiques, mais seules les pratiques agricoles n'expliquent pas les résultats.
Mais votre discours aujourd'hui, c'est de dire quoi ?
La FNSEA propose un contrat de solution. On est dans un objectif de réduction de l'utilisation des produits phyto partout où ça peut s'opérer. Aujourd'hui, on peut difficilement sortir d'une technique pour aller vers une autre. Alors, je dis pas que c'est une fin en soi, la chimie. Si on peut s'en passer, il faut s'en passer. On a des techniques alternatives pour certaines choses. Pour d'autres, on n'en a pas. Mais aujourd'hui, je vais vous dire très clairement, je m'intéresse aussi au bien-être des agriculteurs, au temps de travail. Les agriculteurs ne sont pas à 35 heures, hein, je le dis très clairement. Les phytos, dans certains cas, ont permis d'économiser des heures de tracteur. La chimie nous a aidés aussi là-dedans. Donc c'est des volumes de carburant non consommés. Qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus mal ? Il faut trouver un équilibre dans tout. Aujourd'hui, il y a probablement eu, et il y aura peut-être encore, des produits phytos qui sont à bannir. Il y en a d'autres qui ne posent pas de problème. Et je crois qu'il ne faut pas entrer dans la caricature « tout est bon ou tout est mauvais ». Sur mon exploitation, on a beaucoup évolué. On traite au tiers de dose. Les fongicides, c'est pour tuer les maladies cryptogamiques du blé.
Les champignons.
Les champignons. Donc sur nos céréales l'année dernière, on n'a fait aucun traitement. Parce que le temps, parce que voilà, on a eu l'opportunité de ne pas en faire. Peut-être que le dernier, on l'aurait fait, on aurait gagné 2 ou 3 quintaux, mais ça aurait payé le prix du produit. Donc, on a choisi de ne pas le faire. Donc voilà, c'est des choix qu'on appelle l'agriculture raisonnée. On fait ça très régulièrement. Et il y a des techniques qu'on met en place tous les ans et chacun essaie de faire. Ce n'est pas comme dans un livre ouvert où on dit « il suffit de faire ça pour obtenir ça ». Ça ne marche pas comme ça en agriculture parce qu'on travaille avec du vivant et que le vivant, c'est évolutif tous les jours. On a des techniques alternatives, elles coûtent plus cher. De passer un désherbant de moins, c'est 3 ou 4 heures de tracteur à l'hectare en plus.
C'est des économies quand même en phyto. Si on utilise moins de phyto, on en paye moins, non ?
Non, mais si vous passez une heure pour faire 4 hectares et vous passez 4 heures à l'hectare, c'est des économies sur le phyto. Mais ce n'est pas des économies sur le carburant et sur le temps de tracteur, parce que le désherbage, vous le faites mécaniquement au lieu de le faire chimiquement. Alors effectivement, les conditions de travail de l'agriculteur, eh ben, elles ne sont pas les mêmes. Alors effectivement, ça ferait de l'emploi en plus, sauf qu'il faut le rémunérer. Et donc, qui paye ?
Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres.
Et
ça remplit bien mes journées, ma vie politique et mon bonheur. Ancienne ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Il n'y a pas dans l'élite française, qu'elle soit politique, administrative, celle des très grandes entreprises, il n'y a pas la même prise de conscience que celle qui a eu lieu sur l'accélération du réchauffement climatique. Et il y a surtout une dissociation des enjeux écologiques entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la conscience que tout ça, c'est un grand tout dans lequel s'additionne le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la crise sanitaire liée aux produits chimiques, l'effondrement ou la raréfaction de l'accès à un certain nombre de ressources naturelles et le fait qu'en fait, tout ça, c'est un grand tout qui s'appelle l'anthropocène. C'est-à-dire que petit à petit, on est en train de transformer la planète en astéroïde. Je pense que les alertes scientifiques récentes, elles ont quand même été entendues. Voyez, dans la conscience collective, on se dit, bon, les insectes, au fond, mais si, les gens, en fait, regardez sur les abeilles la mobilisation qu'il y a eu. Nous, on n'aurait jamais réussi à l'Assemblée nationale à faire voter l'interdiction des néonicotinoïdes s'il n'y avait pas eu la mobilisation des citoyens derrière nous, qui ont été 700 000 à signer des pétitions. Donc, je pense que dans la conscience collective du pays sur la biodiversité, c'est en train de basculer. Maintenant, il va falloir obliger les décideurs à prendre les décisions qui sont au niveau de cette attente.
Vous êtes député du département des Deux-Sèvres, c'est un département rural. Justement, comment vous assumez vos prises de position avec notamment les agriculteurs qui vivent sur place, qui se sentent très souvent accusés?
D'abord, moi, j'accepte pas qu'on accuse les agriculteurs. Parce qu'en fait, c'est l'échec en fait, des politiques publiques qui sont menées depuis 20 ans, depuis le Grenelle de l'environnement sur les pesticides. Il y a une hypocrisie et une injustice complète. En fait, le discours est le suivant. L'État et l'Europe autorisent les produits dangereux et disent aux agriculteurs, ce serait bien que vous en utilisiez un petit peu moins. Donc autrement dit, les pouvoirs publics se défaussent de leurs responsabilités sur le dos du monde agricole. Moi, j'accepte pas ça. Et donc, si un produit est dangereux, il doit être interdit par l'État. C'est pas à l'agriculteur qui est dans son champ, d'en utiliser le moins possible, etc., pour prévenir des risques sur la santé ou sur la biodiversité, alors même que, en toute connaissance de cause, le produit dangereux, il est autorisé par l'État et par l'Europe. Voilà. Donc, moi, j'accepte pas ce transfert de responsabilité. C'est au CNRS de Chizé qu'ont été réalisées les études qui montrent que sans pollinisateurs, on a un effondrement des rendements agricoles sur les grandes cultures céréalières. L'idée que, en fait, moins de biodiversité, moins d'oiseaux, etc., ça induirait le fait que ça aille mieux pour le monde agricole. En fait, ce qu'on constate sur le terrain, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans les Deux-Sèvres, j'ai un tiers du monde agricole qui gagne moins de 350 euros par mois. Il y a de moins en moins d'exploitations d'élevage. J'ai une diminution de la surface en prairie et j'ai en même temps une destruction de la biodiversité. Donc, en fait, la réussite demain de la biodiversité, c'est en même temps la réussite d'exploitations agricoles qui sont plus pourvoyeuses d'emplois, du maintien des exploitations d'élevage. Honnêtement, aujourd'hui, la question clé, par exemple, dans un département comme celui des Deux-Sèvres, c'est de mettre un coup d'arrêt au processus de céréalisation, ou des exploitations de polyculture élevage dans lesquelles il y avait des prairies, dans lesquelles il y avait une diversité des assolements, sont transformées en grandes exploitations céréalières. Si on veut mettre un coup d'arrêt aux effets sur la biodiversité, cette question du maintien de l'élevage dans un département comme le nôtre, elle est stratégique. Parce que l'élevage, c'est les haies, c'est les prairies, c'est des assolements diversifiés pour nourrir les animaux.
Court terme, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Parce que voilà, ça c'est un peu ce qu'il faut faire sur le papier.
Mais... Ah non, c'est pas ce qu'il faut faire sur le papier, puisque par exemple l'interdiction des néonicotinoïdes c'est au 1er septembre prochain, et que la question qui est posée c'est, puisque la loi autorise encore un certain nombre de dérogations, est-ce que ces dérogations, comme on le souhaite, vont être très limitées et très particulières à certains types de cultures, ou est-ce que en gros l'esprit de la loi va être contourné pour continuer à autoriser ces produits sur des cultures importantes.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous demander de vous présenter.
Donc, je suis Sylvie Hout, ingénieure CNRS. Et je suis en charge de programmes de sciences citoyennes dans le sud des Deux-Sèvres, sur la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvres.
Sylvie Hout, on a l'impression qu'il y a des études à répétition, alarmistes, pour dire attention, la biodiversité est en chute libre, et pourtant, il n'y a pas vraiment de sursaut. Comment vous l'expliquez ?
Oui, effectivement. D'un côté, on peut s'apercevoir que c'est une réalité. C'est une réalité scientifique, cette diminution de la biodiversité. Elle est enregistrée, documentée. Et de l'autre côté, c'est absolument pas une réalité sociale. Alors, on peut l'expliquer par le fait que c'est un phénomène difficilement observable dans notre vie de tous les jours. On voit pas les oiseaux tomber des arbres, on voit pas des tas d'oiseaux au bout de la rue le matin en allant travailler.
Mais est-ce que c'est un échec des politiques de conservation ?
À mon sens, oui, complètement. Parce qu'on a fêté, il n'y a pas très longtemps, la loi, les 40 ans de la loi de protection de la nature en France. Et ben, on peut conclure, à mon sens, à un échec. Alors c'est peut-être un petit peu caricatural, mais c'est vrai, un échec des programmes de conservation de la biodiversité. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument qu'on change de paradigme en termes de conservation de la biodiversité. Il faut impliquer maintenant les citoyens, parce qu'au final, on était les seuls à ne pas l'être, à être en dehors de ces débats. Quand on voit les programmes d'aménagement du territoire, ce sont des politiques publiques qui s'associent à des scientifiques.
Vous voulez dire qu'avant c'était l'affaire des scientifiques ?
Oui, c'est ça. Ils s'associent à des scientifiques qui sont très proches. Et la conservation de la nature est restée pendant tout ce temps-là entre les mains des associations et des scientifiques et des politiques. Donc pour moi, c'est une... On n'arrivera plus à conserver la nature de cette façon-là, en créant des réserves, en achetant des terrains. On la conservera dès la cour d'école, dès son jardin, au sein même de la commune. Et comment ? Avec les citoyens, parce qu'on est les plus nombreux. On est beaucoup plus nombreux que les scientifiques, on est plus nombreux que les politiques, on est plus durable aussi sur nos territoires. Et si on arrive à travers ce type de programme de sciences participatives à s'approprier son territoire, eh ben, la conservation de la biodiversité s'en sortira beaucoup mieux.
Alors justement, on va voir un de ces projets de sciences participatives que vous avez créé. Ça s'appelle Mon Village, espace de biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en quelques mots ? C'est quoi, comment ça fonctionne ?
Donc c'est effectivement un dispositif déployé à l'échelle des 23 communes de la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvre et qui est basé sur un échange de savoirs scientifiques, mais de savoirs locaux, sur la biodiversité locale, autour des services écologiques, c'est-à-dire en gros en quoi la biodiversité est importante pour l'homme, en quoi la biodiversité contribue au bien-être de chacun. Et donc bien sûr, on a choisi quelques services écologiques, comme par exemple le service de pollinisation.
Et pour avoir une idée, c'est quoi ? Vous installez des choses ? Comment concrètement ça ?
Et donc ces outils pédagogiques, effectivement, c'est ça. Il y en a deux importants. L'un, ce sont des abris à insectes qui sont offerts à toutes les familles qui souhaitent devenir membres du dispositif et qui installent cet abri pour les abeilles solitaires, essentiellement, dans leur jardin et qui en assurent le suivi. Et un autre outil, c'est l'installation de ruchers pédagogiques communaux. Trois ruches qui sont mises à disposition dans chaque commune. C'est-à-dire qu'en gros, les habitants volontaires sont invités à non seulement s'occuper du bien-être des abeilles, mais à assurer le suivi des ruches. Et il existe d'autres moments, comme les universités populaires ou des animations grand public, et aussi un gros programme avec l'ensemble des écoles primaires. Ça sent la fumée, ça sent... Bonjour Gérald.
Bonjour.
Donc où est-ce qu'on va là ?
Alors je voulais vous présenter un rucher que j'ai aux autoroutes, enfin sur un petit parking des autoroutes. Une aire qui est privée, hein, les voitures n'ont pas le droit d'y aller, mais c'est des bâtiments que les autoroutes, un emplacement qui me prête. Parce qu'ils sont partenaires avec nous pour l'abeille noire locale. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas les mettre là-bas. Donc on va aller là-bas et puis on va voir comment, si ça se prête, si le terrain s'y prête pour regarder les abeilles.
D'accord. Donc ça fait partie d'un projet dans le cadre de Mon Village, espace de biodiversité.
Oui, ça en fait partie, ouais, parce qu'on essaye de prôner l'abeille noire locale. Donc avec Sylvie, on s'est mis à plusieurs apiculteurs aussi à valoriser cette abeille noire. Parce que bon, elle est un petit peu délaissée et bah, avec tout ce qui se passe dans l'environnement, on a de plus en plus de problèmes à la sauvegarder. Donc l'idée c'est de ça, c'est de la sauvegarder et puis de la redistribuer après aux autres apiculteurs s'ils le souhaitent.
Qu'est-ce que vous tenez à la main ?
Donc l'enfumoir, on l'allume avant d'aller au rucher, c'est notre outil principal, l'enfumoir.
Ça ressemble à une espèce de conserve. Hein.
Ça ressemble à un peu une boîte de conserve un peu plus grande. Où dedans, on met du foin, on met des choses naturelles, de la paille, on peut mettre des granulés à bois sans colle. Et on va faire de la fumée pour prévenir la ruche, la colonie, qu'on va pénétrer dedans, qu'on va regarder à l'intérieur. Ça permet d'inhiber un peu les phéromones de la reine. Pour pas qu'elles disent aux abeilles qui défendent la ruche, attaquer, il y a une intrusion. Donc pour éviter ce phénomène-là, eh bien on leur souffle un petit peu de fumée et ça permet de pouvoir accéder dans la ruche. On va ouvrir maintenant. Alors c'est toujours collé, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de bruit en ouvrant, en essayant de donner beaucoup, le moins d'à-coups possible. Là, je les préviens par-dessus, parce qu'au-dessus, elles n'en ont pas eu. On voit tout de suite qu'elles redescendent, elles vont les se nourrir, elles vont chercher du miel, se gaver de miel un petit peu, parce que elles ne savent pas trop ce qui se passe. On voit sur le haut, il y a du miel partout. On a la moitié du cadre qui fait à peu près 30 cm par 20, qui est rempli de miel, du miel qu'elles avaient pris avant l'hiver, donc elles n'ont pas tout consommé, des deux côtés.
Alors on voit bien, donc ça c'est quoi comme abeille, vous me disiez?
Alors ça c'est de l'abeille noire, vous voyez, elle est toute noire. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais le bruit est significatif d'une colonie qui va bien.
Le bruit
est régulier, tout se passe bien, elles sont bien là. Là c'est du pollen qui est tout jaune, alors il y a un peu de toutes les couleurs, orange, jaune, noir, ça peut être marron. Il peut vraiment y avoir beaucoup de couleurs. Une colonie qui va pas bien, on le sent tout de suite à l'ouverture. Déjà au niveau de l'agressivité, elles vont être beaucoup plus agressives, elles vont se jeter sur nous, elles seront pas bien quoi. Et ça on en trouve de plus en plus.
Il faut savoir qu'ici, donc on est près du centre d'études de Chizé, donc centre CNRS, qui a mis en place pas mal d'études participatives. Est-ce que vous en avez fait partie, c'est
voilà.
Ça
En fait, je suis rentré dans le réseau, j'ai eu une information par les écoles où mes enfants étaient, et je suis rentré dans le réseau du CNRS de Chizé, où ils proposaient des universités populaires avec différents thèmes sur la biodiversité, sur les abeilles. On a plus de 1000 espèces d'abeilles en France, et j'en connaissais pas deux, quoi. Donc j'ai eu des formations là-dessus, des soirées où on était 70-80 personnes à venir écouter des professionnels et des passionnés qui nous expliquaient comment ça évoluait autour de nous. Pourquoi les oiseaux migrateurs ne venaient plus, pourquoi on voyait plus de papillons dans la nature, pourquoi l'abeille ne retournait pas à la ruche, quels étaient ses effets. Énormément de choses comme ça, de thèmes qui m'ont passionné et qui m'ont fait découvrir et apprendre plein de choses.
Est-ce que vous constatez un problème de mortalité de vos abeilles? On entend beaucoup d'apiculteurs dire que les abeilles vont mal.
Alors oui, c'est un gros problème chez nous, c'est que on a beaucoup de mortalité. C'est assez compliqué de se renouveler tous les ans, on fait beaucoup d'élevage pour ça, parce que elles ramènent des choses dans la ruche qui ne sont pas tout à fait naturelles, qui sont polluées. Il y a un acarien aussi qui gêne beaucoup l'abeille, qui s'appelle le varroa, qui emmène une pression permanente sur les colonies, qui apporte des maladies aussi.
On parle des néonicotinoïdes, est-ce que vous avez ce problème ici?
Je pense qu'on l'a tous, après c'est pas facile à nous, alors on le voit bien, parce que quand on a devant une ruche, là on a j'ai de la chance entre guillemets, mais...
Alors pour préciser, les néonicotinoïdes c'est un pesticide en fait hein.
Oui. Qui se retrouve soit en enrobage de semences ou soit par pulvérisation sur les cultures et que les abeilles vont ramener par le biais du nectar et qu'on retrouve ou qu'on retrouve pas parce que les abeilles, avec le CNRS de Chizé et l'INRA surtout qui a fait des études et pendant ces universités populaires que le CNRS nous offrait, j'en ai fait une vingtaine avec eux et il y a une journée où je me rappelle Jean-François Audoux qui est venu nous expliquer les pollens qu'elle ramenait, les dérives qu'il pouvait y avoir. Parce que les abeilles ne retrouvent pas leur ruche. Elles ont un GPS hors norme. On déplace une ruche de 30 cm, elles sont perdues. Mais là, elles ne retrouvaient carrément plus le champ où était leur rucher. Quoi. Parce qu'elles ont pris une drogue qui touche le système nerveux et qui les empêche de revenir à la ruche. Donc on a une belle ruche qui a une belle colonie. Et puis d'un seul coup, qui va complètement s'effondrer. Celles qui reviennent à la ruche se mettent à trembler et ne sont pas bien. Et puis celles qui ne reviennent pas sont perdues dans la nature. Quoi.
Mais vous en voyez, vous, qui reviennent un peu groggy ou...
Oui, ça m'est déjà arrivé d'en voir être toute tremblante sur une ruche, être pas bien, et puis on revient 2-3 jours après et on voit un tapis d'abeilles devant la ruche. Un tapis d'abeilles, hein. C'est vraiment impressionnant.
Tapis, c'est-à-dire qu'elles sont mortes?
Elles sont mortes devant la ruche, parce que celles qui meurent dans la ruche, les autres abeilles, pour pas polluer l'intérieur de la ruche, vont les expulser à l'extérieur.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Dans les Deux-Sèvres, les habitants ont été invités à participer à une autre expérience grandeur nature sur la biodiversité, un nichoir dans la plaine. Nous retrouvons Sylvie Hout du Centre d'études biologiques de Chizé.
Alors c'est un dispositif de science participative qui est basé sur l'observation de nichoirs par des habitants. Qui ont eu un nichoir offert par le dispositif, par le programme, et qui l'ont posé dans leur jardin et qui l'observent et qui transmettent leurs données d'observation.
Il y a eu combien de nichoirs d'installés ?
Alors, on peut compter ça en nombre de jardins qui ont accueilli des nichoirs, donc 1500 jardins, ce qui représente une part importante du nombre de jardins, ou en tout cas du nombre de foyers de la zone concernée, puisque c'est presque 8%. Et donc ça fait à peu près 2200 nichoirs qui sont actuellement posés, parce que certains jardins accueillent plus qu'un nichoir, un, deux ou trois nichoirs. Et ce sont des nichoirs qui ont pour objectif d'accueillir trois espèces d'oiseaux différentes. La huppe faciée, le hibou petit duc et la chouette chevêche. Donc là, on va aller voir quelqu'un qui participe au projet des nichoirs dans la plaine.
On y va ?
On y va. Bonjour. Sylvie Hout du CNRS.
Sandy Dauphine, France Inter.
Excusez-moi de vous déranger.
Non, non.
Non, très bien.
On vient voir votre nichoir.
Voilà. Donc voilà, ce qui m'a intéressé, c'était de voir le nichoir que vous avez posé.
Voilà, donc celui que j'ai posé.
Et il y a longtemps déjà.
Au lieu du cataille de l'heure.
D'accord.
Voilà. Et donc ce matin, elle était coincée juste là.
D'accord.
Qui était coincée ?
La huppe faciès.
D'accord. Ça veut dire qu'elle peut... Vous l'avez vu rentrer et sortir ?
Non, elle n'a pas vu rentrer et sortir, elle a juste posé.
Posé sur le nichoir ?
Sur le nichoir.
D'accord.
Et depuis quelques jours, j'entends tac, 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 tac.
Vous avez une échelle ?
Oui, oui.
Ah bah.
La échelle est là. Alors, c'est bien, hein.
Vous allez monter, là ?
Ouais.
Ouais, donc là, on installe une échelle sous le nichoir.
Faire attention de ne pas taper le nichoir.
C'est facile. Non, à moins que je la monte là-haut.
Ouais.
Allez, je vais peut-être...
Ouais, ça va aller.
Là.
Donc je vais monter. C'est pas forcément l'époque idéale pour aller déranger des oiseaux en reproduction. Mais je voulais vérifier ce qu'il me disait.
Qu'est-ce que vous voyez alors ?
Donc actuellement, effectivement, si vous les avez vues, c'est normal. Ça fait à peu près un mois que les huppes sont arrivées dans la région. Elles ont démarré la reproduction. Ouais. Donc pour certaines, voilà, en avril jusqu'en mai à peu près.
À peu près, oui.
Donc vous verrez les jeunes plus tard, en juin,
ouais,
juillet.
À peu près, oui.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Parce que donc, j'en ai photographié là, un peu partout dans le jardin, avec mon appareil photo. Parce qu'en plus, c'est un bel oiseau. Un bel oiseau.
Parce qu'il est comment ?
Alors, c'est un oiseau magnifique et très cher au cœur des gens de la région parce que c'est un peu comme le coucou, c'est une espèce qui annonce un peu le printemps. C'est un oiseau avec un plumage exceptionnel, il fait un petit peu exotique.
Quelle couleur ?
Il a les ailes et la queue rayées de blanc et de noir. Et puis un contraste énorme avec le haut des épaules et la tête orange, roux orange. Et puis surtout une crête impressionnante et rictible. Ça veut dire que quand elle va se dresser quand l'oiseau est ou énervé, excité ou a peur. Et puis caractérisé par un bec très long, très fin, un peu courbé, d'accord, qui lui permet d'aller chercher des larves d'insectes dans le jardin.
Est-ce que la population de huppes est en déclin ?
La huppe a enregistré de très très forts déclins dans les années 90, avec des forts déclins, mais aussi très variables d'une région à l'autre. Et actuellement, on assiste à une stabilisation. Elle a encore un statut de conservation fragile. Donc voilà, c'est une espèce qui est très liée aux cavités. Elle doit trouver des cavités, donc elle est dépendante de ça pour sa reproduction. Des cavités dans les vieux arbres, et on sait que les vieux arbres sont éliminés régulièrement. Le bâti est restauré, donc les trous dans les murs sont aussi bouchés. Et donc elle a des difficultés à utiliser des nichoirs, ça reste quand même des cavités artificielles. Mais quand ils sont bien placés, c'est-à-dire pas trop haut, la huppe, c'est une espèce qui vit très proche de l'homme. Donc mettre un nichoir contre un mur tout près de sa porte d'entrée, à 2 mètres ou voire à 1 mètre de hauteur. Donc faire attention, effectivement.
Elle n'a pas peur des humains. On peut mettre un nichoir tout près de la maison.
Exactement. Ouais. C'est une espèce vraiment très très proche. C'est pour ça que les gens la connaissent bien et qu'elle est assez emblématique et patrimoniale. C'est parce que elle vit vraiment dans nos jardins, dans nos villages.
Et nos anciens, ils appellent ça le pupu.
Ouais, la pupu. Et effectivement, ouais. PU, ouais.
Son riz un peu, son up.
Oui, son chant est très caractéristique. Les gens connaissent cet oiseau parce que son chant, on l'entend de très loin. Il est très sourd et très fort à la fois. Il fait un peu pou 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 pou.
Et là, on entend un chant d'oiseau. C'est la huppe.
Donc c'est la huppe faciée. Donc effectivement, il y a un mâle qui est dans un des arbres fruitiers du voisin, donc à quelques mètres. Donc c'est pour ça qu'on l'entend assez bien. On est dans nos sociétés contemporaines de plus en plus déconnectées de la nature. On passe de plus en plus de temps devant les écrans et de moins en moins de temps à l'extérieur. Et du coup, on perd progressivement une relation positive, intime avec l'environnement. Alors l'environnement de façon large, c'est-à-dire la biodiversité, les espèces végétales et animales qui nous entourent, mais aussi les gens qui habitent nos territoires.
Printemps silencieux, c'était un reportage de 110 dauphins réalisé par Michel Soulier, assistant Stéphane Combe, prise de son François Rivalran, mixage Rémi Quincé. À la semaine prochaine.